Next.
En 2023, dans chaque foyer français, il y avait en moyenne 10 écrans. Dans le Lot, au moins 1 sur 4 n'était pas utilisé. Pour les construire, ces écrans, pour leur adjoindre un clavier quand il s'agit d'ordinateur, pour en stocker les données dans de vastes rangées de serveurs, pour tirer les câbles qui nous relient à l'écosystème numérique, il faut des ressources. Pour construire un smartphone, par exemple, on a besoin de plus de 60 matériaux différents. Il faut extraire près de 200 kg de matière pour construire un seul de ces bijoux de technologie. Je suis Mathilde Saliou, journaliste chez Next, et vous écoutez Écosystème. Épisode 2, la Terre derrière la tech. Le numérique n'a rien de dématérialisé. En réalité, certains considèrent même qu'on pourrait le qualifier de mine. Pour en parler, je suis allée voir quelqu'un qui a récemment publié une bande dessinée exactement sur ce sujet, celui des ressources. Ce quelqu'un, c'est l'ingénieur Philippe Biwix, qui est aujourd'hui directeur général d'AREP, une filiale de la SNCF. Avant cet ouvrage, co-signé avec Vincent Perrault, il a publié plusieurs livres sur les enjeux du numérique, dont « Le bonheur était pour demain » en 2019 et « L'âge des low-tech » en 2014. Pour commencer, je lui ai d'ailleurs demandé de résumer les propos de ce premier livre.
Donc ça s'appelle « L'âge des low-tech », c'est une sorte de pied de nez ou d'alerte sur la question des high-tech, c'est-à-dire sur la question du technosolutionnisme, l'idée que finalement, en face de chaque problème environnemental, que ce soit le problème climatique, le problème des ressources, on a des solutions techniques, technologiques. Et donc l'alerte, c'était de dire que ces solutions high-tech consomment plus de ressources, souvent des ressources plus rares, et que ça nous éloigne du recyclage. Hein, l'idée que finalement, un smartphone, un capteur numérique, un data center, c'est très mal recyclé quand ça arrive en fin de vie. Et donc, en misant finalement sur ces solutions, alors on reste aujourd'hui très technosolutionniste, on nous explique que l'intelligence artificielle, ça va permettre de faire plein de trucs. Bon, voilà, qu'en fait, non, fallait faire attention qu'on avait ce problème d'éloignement de l'économie circulaire en allant de plus en plus vers des objets enrichis en technologie. La question des ressources, elle n'était pas très très visible encore au début des années 2010. C'est monté en puissance dans la décennie, cette question, notamment avec la mobilité électrique, les batteries de voitures, les métaux comme le lithium, le cobalt, le nickel, et puis on a beaucoup parlé des terres rares aussi à partir des années 2010-2015. Donc c'était quelque chose peut-être qui était encore un petit peu émergent, qui maintenant je pense est plus installé dans le débat public, où voilà, il y a un peu plus de vision là-dessus. Et puis, la deuxième partie de l'ouvrage, après cette alerte-là, c'est de dire, qu'est-ce qu'on fait? Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a plein de solutions, finalement, mais qui ne sont pas que des solutions techniques, qui en fait sont des solutions plutôt culturelles, organisationnelles, sociales, sociétales, avec l'idée un peu de réussir à mettre en œuvre des logiques de sobriété, mais de sobriété systémique, pas juste de sobriété frugalité personnelle et individuelle, et qu'il y a des moyens, finalement, qu'on a quelque part, compte tenu du gâchis phénoménal d'énergie, de ressources, de nourriture, de plein de choses, dans la manière dont aujourd'hui on organise finalement la conception, la production et la consommation et la destruction des objets finalement, et bien qu'en fait en réalité on a des marges de manœuvre phénoménales même avec la technologie actuelle, qu'il n'y a pas besoin de miser sur des technologies formidables du futur.
Comme vous venez de le dire, le sujet des ressources est désormais peut-être un peu plus sur le devant de la scène qu'à l'époque. On se concentre peut-être moins uniquement sur le problème du carbone. Est-ce que vous voyez des pistes d'action concrètes pour essayer de se détourner un peu de ces logiques de high-tech partout, intérêt de l'environnement, je ne sais pas s'il est nulle part, mais plus faible, ou est-ce qu'on continue sur la même tendance
Je dirais un petit peu des deux. Il faut garder de l'optimisme et sans doute une certaine ténacité dans l'état actuel des réflexions politiques ou géopolitiques, où il y a quand même une sorte de backlash environnemental avec l'idée qu'on finalement on revient sur des réglementations, on revient sur des ambitions. Moi, je vois à la fois un intérêt pour ces sujets, un peu, on pourrait dire, de solutions sobres et résilientes. On voit quand même apparaître plein d'initiatives, plein de choses intéressantes, plutôt dans les territoires. On pourrait citer les Ripper Cafés et voilà, des pans peut-être de l'économie sociale et solidaire qui accompagnent la possibilité de faire durer les objets et donc de consommer moins de ressources. On voit apparaître des choses, par exemple, dans le domaine du logement, du bâtiment, c'est pas juste de faire de l'éco-conception de bâtiments qui vont être beaucoup plus économes en énergie. On voit apparaître même des solutions presque sociales qui, comme la recohabitation, comme l'habitat intergénérationnel, l'habitat partagé, donc des choses qui permettent finalement de produire des logements ou de produire des mètres carrés sans les avoir construits, d'une certaine manière. C'est l'idée que si vous avez chez vous... vos enfants sont partis faire des études, vous pouvez peut-être accueillir un étudiant ou une étudiante chez vous. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc, c'est intéressant. Et je pense qu'effectivement, le mot low-tech, alors c'est pas juste l'âge des low-tech qui a contribué à ça, mais s'installe dans certains programmes de recherche, dans des écoles d'ingénieurs, d'architectes. Donc voilà, il y a des institutions publiques à différents niveaux qui s'intéressent à ces sujets. Mais en même temps, je dirais que le gros de l'intérêt public globalement et du fonctionnement, enfin, ça reste très business as usual et ça reste quand même sur l'idée de la croissance verte, sur l'idée de l'innovation qu'il faut mettre des centaines de millions ou des milliards d'euros sur tel ou tel domaine. Qui peuvent être les smart grids, les réseaux intelligents, qui peuvent être l'intelligence artificielle. C'est cette idée, un peu cette obsession qu'il faut courir aussi vite que les autres, sinon on va se faire distancer, quoi. Donc c'est un peu le syndrome de la reine rouge dans Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire faut courir pour faire du surplace, en fait. Si vous voulez avancer plus vite que les autres, faut courir deux fois plus vite. Toutes ces questions, elles restent quand même marginales. Alors il y a une évolution que je trouve notable, ou deux évolutions notables. La première qui est peut-être un peu liée à la crise sanitaire, alors on enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais quand même, la crise sanitaire, elle a montré qu'il pouvait y avoir des évolutions de normes sociales, culturelles, ou d'évolutions de pratiques qui pouvaient aller très rapidement. Donc des choses qui nous paraissaient impossibles, finalement, à faire, elles devenaient possibles. Alors, en partie sous la contrainte, c'est pas la bonne partie, mais par contre, il y a des choses comme la pratique du vélo, comme peut-être la sobriété dans le chauffage, comme la question de la pratique du télétravail pour ceux qui ont la possibilité de télétravailler. Voilà, ça, c'est des choses qui ont été beaucoup plus rapides, finalement, en déploiement et qui montrent que, finalement, on néglige toujours un peu la capacité d'adaptation de l'être humain et des sociétés. En fait, ça peut bouger assez vite, en fait, finalement, tout ça. La deuxième évolution, c'est plutôt lié à la guerre en Ukraine et à l'évolution des prix de l'énergie en 2022, et qui ont installé ce mot de sobriété dans un certain discours, à la fois public et à la fois dans les entreprises, les administrations. Voilà, ce mot qui était manié essentiellement par quelques ONG environnementales ou quelques écolos et qui en fait aujourd'hui devient intéressant et voilà, dans les entreprises on réfléchit, je pense, à faire de la sobriété qui peut être de la sobriété économique et de la sobriété écologique à la fois, et ça peut fonctionner. Petit inconvénient pour l'instant étant que ça reste encore manié par la puissance publique, au niveau en tout cas étatique, plutôt une sobriété personnel, individuel, quoi. Voilà, faut moins chauffer, faut prendre le vélo, faut covoiturer. Alors qu'en fait, il y a aussi une sobriété beaucoup plus systémique qui pourrait être vraiment liée aux organisations, liée aux incitations fiscales, réglementaires, où il y a plein de manières de faire des choses qui soient de la sobriété organisée et qui ne peut pas dépendre que des gestes unitaires de chaque foyer.
Admettons qu'un politique qui découvre le sujet passe parmi les auditeurs. Et puis en reprenant aussi ce que vous écrivez dans la BD Ressources, cette fois-ci qui est sortie beaucoup plus récemment, je vous voyais citer l'exemple, c'est votre personnage qui dit « Chaque fois que nous produisons un smartphone, aujourd'hui nous faisons le prix d'une baisse d'équipement de dentiste de l'an 2200 ». Ça, c'est un peu pour permettre aux gens de réfléchir aux petits gestes personnels, mais si on le traduisait à l'échelle des systèmes, est-ce qu'il y aurait des exemples aussi qui permettraient de comprendre le coût de quelque chose qu'on fait aujourd'hui? Soit ce que ça empêche plus tard, soit juste, est-ce que vous pouvez illustrer ce que ça coûte à la planète, en fait?
En fait, ça vient, c'est presque un hommage à un économiste qui s'appelle Nicolas Georgescu-Rogan et qui a été un des rares économistes à s'intéresser à cette question des ressources non renouvelables, c'est-à-dire l'idée qu'on tape dans un stock et puis qu'ensuite, ce stock, eh bien, on va intégrer ces ressources dans des objets en fin de vie, les objets étant assez mal recyclés. Et on va disperser ces précieuses ressources. Et donc, lui, il prenait l'image de la portière de voiture en disant que ça serait des socs de charrue en moins pour les générations futures, donc la capacité des générations futures à se nourrir. C'est assez glaçant, assez stressant. Bon, et puis du coup, on a un petit peu adapté ça en parlant plutôt des métaux et du high-tech. Et donc, avec cette idée que le smartphone, qui est un objet très compliqué et très, très mal recyclé, parce que voilà, les 40-45 métaux qu'il contient sont en quantité tellement infime, en grande partie, que en fait, c'est techniquement inenvisageable de correctement recycler. Et donc de dire que c'était peut-être effectivement des ressources qui ne seraient pas disponibles dans le futur. C'est-à-dire que de prendre des implications morales et philosophiques, on pourrait dire, et pas seulement des implications techniques de court terme. C'est-à-dire de dire finalement, ouvrir cette question de ce qu'on appelle le techno-discernement, le discernement technologique, de dire j'ai extrait ces ressources, ça se fait avec un prix environnemental incroyable, parce que l'extraction de ressources fait partie des activités humaines les plus impactantes pour l'environnement, quoi. Pour la biodiversité, il y a de la consommation d'eau, il y a de la poussière, il y a plein de choses. et puis beaucoup de déchets miniers, de déchets du traitement des minerais, et puis ensuite la métallurgie elle-même est énergivore, etc. Donc toute la chaîne de valeur est très complexe, ça dépend évidemment de chaque métal, mais c'est quand même l'idée. Et donc à quoi on utilise ces précieuses ressources, quoi, finalement ? C'est pas seulement pour dire attention, séparez-vous de votre smartphone ou bien changez-le tous les 5 ans au lieu de le changer tous les 2 ans qu'on prend cette image-là. C'est plutôt pour dire, encore une fois, on pourrait en tout cas se saisir de ce sujet-là. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est lié à des capacités de calcul. Alors, il y a différents types de modèles d'intelligence artificielle qui sont plus ou moins consommateurs de calcul. Mais globalement, on voit qu'on a des centaines de centres de données, de data centers qui sont en construction, qui sont en projet, avec des échelles, ce qu'on appelle hyperscale. Donc, c'est vraiment des monstres qui consomment l'équivalent de villes de dizaines de milliers ou de centaines de milliers d'habitants. Donc, on voit d'ailleurs que des Google ou des Microsoft sont en train de renoncer à leur neutralité carbone qu'ils avaient engagée plus ou moins pour 2030, on va dire, parce qu'en fait, face à cet incroyable rebond de besoins de consommation, eh bien, en fait, c'est impossible qu'ils atteignent la neutralité carbone, même en essayant de déverser des fonds dans la subvention aux énergies renouvelables, enfin, ou l'achat d'électricité d'origine renouvelable. Donc, cette idée-là du discernement technologique, de dire, mais à quoi ça peut bien servir, cette IA, si c'est pour faire, je ne sais pas quoi, des images de nounours super sympathiques, et puis, ou faire la liste des courses et des menus de la semaine, enfin, bon, OK, il y a quand même un côté un peu anecdotique aussi dans tout ça. Pas que, bien sûr, il y a aussi des usages professionnels, etc., qui pourraient être chacun discutés. Mais quand même, voilà, se dire qu'aujourd'hui, on fait un gaspillage assez incroyable des ressources. Gaspillage, ça veut dire quoi ? Parce que les ressources, elles sont potentiellement très, très importantes. Comme on le raconte dans la BD, on a extrait un 10 000e de l'or qui est contenu sur la planète sur 1 km d'épaisseur et 300 000e, c'est-à-dire 0,03% du cuivre. Donc on se dit qu'on en a encore beaucoup, mais en fait c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, c'est qu'on va d'abord chercher les choses qui sont les plus accessibles, les plus faciles à extraire, et qui sont les moins profondes ou dont les minerais sont les plus riches. Et donc ça c'est effectivement des opportunités que n'auront pas les générations futures. Il faudra qu'ils aillent toujours plus profondément, il faudra qu'ils aillent à des endroits qui vont être toujours plus impactants pour la planète. On peut penser par exemple à l'extraction sous-marine. Donc du coup voilà, c'est quoi les bons usages et c'est quoi les mésusages finalement technologiques ? Et c'est une question qu'on n'adresse pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on vit dans la loi de Gabor, Denis Gabor, qui était un prix Nobel qui a inventé l'holographie à la fin des années 60, début des années 70. Denis Gabor, il a inventé une sorte de loi, on pourrait dire empirique, et dire que tout ce qui pourrait être fabriqué sera effectivement fabriqué. Voilà. Et qu'il n'y a pas de question finalement de but ou d'utilité, c'est juste si ça peut se vendre, ben, on va le fabriquer. Quoi. Et c'est vrai pour tous les objets ou services les plus stupides. Et très probablement, voilà, dans les questions de robotique, dans les questions d'intelligence artificielle, dans les questions numériques, dans les services numériques, on est vraiment face à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question d'utilité, il n'y a pas de question de peser quelque part les rapports entre les coûts et les bénéfices. Et là, je parle bien de coûts et de bénéfices environnementaux ou sociaux. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est un secteur qui échappe finalement à l'autorisation de mise sur le marché. Finalement, vous pouvez ouvrir n'importe quelle appli numérique, à condition évidemment de ne pas faire de la pédopornographie, quoi, voilà, ou des choses un peu interdites, mais n'importe quel autre truc, vous pouvez le faire, alors que ce n'est pas vrai de tous les autres produits et services. Quand vous mettez un médicament sur le marché, vous avez des études d'impact, finalement, des études cliniques pour dire qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Quand vous homologuez un siège bébé de voiture, oui, on vérifie aussi qu'il n'est pas dangereux et qu'il est construit comme il faut. Quand vous voulez vendre un jouet en Europe, vous devez respecter un certain nombre de critères sur la question des produits chimiques qui sont incorporés dans ces jouets. Et quand vous ouvrez un service numérique, il n'y a pas de problème, vous pouvez ouvrir votre service numérique, quel qu'il soit, et même s'il va contribuer à l'abêtissement de la société, ou même s'il va contribuer au mal-être des adolescents, etc. C'est une manière un peu de venir poser l'alerte sur une des composantes, qui est la composante effectivement de l'extraction de ressources, mais en fait il y en a d'autres. Parce que évidemment, l'impact de la numérisation, de la vie, de l'école, des relations humaines, elle est bien plus large évidemment que la question uniquement environnementale.
Du coup, vous précédez un peu ma question, mais j'allais justement dire, certes, les coûts, bénéfices environnementaux ne sont pas questionnés, mais dans un sens, l'acceptabilité sociale est justifiée par une potentielle recherche d'efficacité, de fluidité, et notamment par toute cette idée de la dématérialisation, ça permettrait de mieux interagir avec l'État, par exemple, les services publics. Or, dans la réalité, il y a quelques semaines, il y a la Défenseure des droits qui a publié un nouveau rapport où elle dit que la dématérialisation, certes, ça sert à beaucoup de gens, mais ça en exclut aussi beaucoup. Donc, dans quelle mesure est-ce que les questions d'utilité au sens écologique rejoignent celles d'utilité ou d'inclusion au sens plus social, sociétal ?
Comme toujours, je pense qu'il y a le vrai et le faux sont mélangés, ou bien il y a les bons et les mauvais usages sont mélangés aussi. Je pense que la question, effectivement, de l'inclusivité numérique ou de l'électronisme, comme on dit, ou du fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a une partie de la population, alors soit parce qu'elle est trop âgée, soit parce qu'elle n'est pas équipée correctement, ou un mélange des deux, fait qu'on peut vraiment se retrouver effectivement exclu de la capacité, j'en sais rien, à prendre un rendez-vous avec tel ou tel organisme ou administration, à déclarer ses impôts et à faire quelques autres trucs. Ça, je pense qu'en fait, c'est un argument qui est évidemment intéressant, mais qui ne permet pas de s'inscrire dans une réflexion dans la durée, parce que finalement, mon sentiment, c'est qu'il y a un côté un peu en disant « bah oui, c'est normal, à 70 ans, pour l'instant, ils ne maîtrisent pas, mais ne vous inquiétez pas, quoi. À un moment, les générations se remplacent les unes après les autres, et maintenant, à un bout d'un moment, on n'aura plus que des digital natives qui tous maîtriseront et tous seront équipés. » Et donc, pour moi, ça va quand même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même parfois, effectivement, une certaine efficacité. Cette efficacité, elle peut ne pas être perçue par les utilisateurs eux-mêmes, mais elle est perçue par la puissance publique. Exemple, aujourd'hui, quand toutes les entreprises vont passer d'ici quelques années maximum à de la facturation électronique entre elles, en passant par des plateformes agréées, ça va réduire la fraude à la TVA ou la fraude fiscale tout court. Bon, donc la puissance publique, elle voit un intérêt à la numérisation du monde. Alors la question, c'est qu'il y a peut-être une bonne numérisation en espérant qu'effectivement, peut-être, ça réduise la fraude. On peut se dire, bah oui, à un moment où on cherche un peu d'argent public, c'est peut-être pas mal, mais ça permet aussi la surveillance de masse, très probablement. Donc voilà, encore une fois, coût-bénéfice se promène. Mais je pense que l'argument de dire ça exclut des gens est un peu temporaire, d'une certaine manière. Alors temporaire au sens 10 ans, 20 ans, hein, mais peut-être est un argument qui risque de perdre en poids dans le futur, et qu'au contraire, il faut plutôt regarder les aspects, je dirais, vraiment sociétaux et cognitifs profonds, c'est-à-dire de se dire, attendez, si on met des enfants devant des tablettes à partir de la maternelle, qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans la capacité à lire et à écrire, dans la capacité de compréhension, dans le monde finalement qu'on leur propose, où on va leur faire des cours de développement durable en disant, bah oui, c'est bien, il faut protéger la planète, et en même temps, on va leur mettre des objets numériques qui durent 3-4 ans et qui bousillent la planète un petit peu partout dans les 50 pays où il faut les extraire ou les produire. Donc voilà, par exemple, la question de dire on fait du zéro papier, donc c'est mieux pour l'environnement parce que tout est numérique, et je pense que c'est quelque chose qui est un peu frelaté en réalité, et que le bilan environnemental global, il est évidemment incalculable, il est très difficile à approcher, on peut faire des études de cas, c'est un peu comme le pot de yaourt en plastique ou en verre, bah, ça dépend, est-ce que le plastique est recyclé, ça vient d'où, est-ce que le verre est recyclé, ça vient d'où, est-ce qu'on va avoir plusieurs usages, un seul, bon, facture électronique versus papier ou relevé de compte, je sais pas quoi, bancaire, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais,
je pose du coup la question de l'exclusion numérique aussi, parce que dans un précédent entretien avec Frédéric Bordage de Green IT, ouais, lui il dit dans quelques dizaines d'années grand maximum, il n'y a plus de numérique parce qu'on n'a pas assez de ressources pour le soutenir au niveau auquel on l'a aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous partagez le constat de Frédéric Bordage sur à quelques décennies, de toute manière, notre usage d'outils numériques n'est pas soutenable? Ouais. Et du coup, si oui, derrière la question, c'est est-il si logique que ça de pousser le tout numérique partout si de toute manière, il va falloir se réhabituer à faire avec un peu moins?
J'adoucis un tout petit peu mon sentiment et que oui, à terme, c'est pas durable. La question, c'est est-ce que c'est 10 ans, 20 ans ou 50 ans ou autre. Cette extraction effrénée de ressources, et encore une fois, très mal recyclée. Il y a beaucoup de métaux qui sont inclus dans nos objets numériques qui sont recyclés à l'échelle mondiale à 0%, hein, moins de 20% en tout cas, disent les scientifiques. Donc, ça veut dire quasiment rien. Donc, c'est vraiment du gâchis unitaire, quoi. C'est ce qu'il y a dans votre smartphone. Ça sera, à part l'or du microprocesseur, un peu le cuivre et quelques métaux précieux qu'on va essayer de récupérer, l'essentiel de ce qui est dans votre smartphone, ce qui fait les couleurs dans l'écran, les microcondensateurs de la carte électronique, etc. Tout ça, ça sera utilisé qu'une seule fois dans l'histoire de la Terre. Hein. Donc, c'est quand même cette idée-là. Donc, prolonger ces usages ad vitam aeternam, je pense qu'effectivement, c'est pas possible. Ce que ça ouvre à plus court terme, pour moi, quand même, parce qu'effectivement, à horizon, allez, même 20 ans, 30 ans, qui s'en soucie finalement aujourd'hui, hein, quel décideur politique serait capable de se projeter à 30 ans? Ils font un peu semblant de temps en temps, mais enfin, en vrai, je vais pas dire que c'est dur de leur en vouloir, parce que on a envie de leur en vouloir quand même un peu, mais bon, finalement, voilà, la règle du jeu est ainsi faite. Ça n'empêche pas de se battre un petit peu, hein, pour essayer de réélever le débat démocratique, bien entendu, hein, mais moi, ce que ça ouvre à plus court terme, c'est aussi des questions de résilience. Alors, c'est un mot qui est très à la mode, qui a commencé à être à la mode dans les territoires avant Covid-19. Puis Covid-19 a évidemment rajouté une couche là-dessus, c'est-à-dire cette idée un peu de capacité de résister, de fournir les services de base, quelles que soient les conditions de perturbation externe, quoi. Donc, alors, ça peut être des perturbations géopolitiques, hein. On peut évidemment penser à plein de choses en ce moment. Ça peut être des perturbations liées à l'évolution du climat. On se rend compte qu'il y a fait des profils de consommation où parfois dans une usine du monde est produit tel ou tel truc qui fait que derrière, en fait, 3 mois plus tard, il va y avoir des ruptures de chaînes d'approvisionnement parce que je sais pas quelle usine a été inondée ou a pas eu accès à l'électricité pendant un certain temps. Avec des choses vraiment très, très sérieuses. On a eu l'exemple en 2021-22, en rebond du Covid, des chaînes d'assemblage de voitures qui se sont arrêtées parce qu'ils n'avaient pas les microprocesseurs pour les intégrer. Il y a beaucoup d'électronique maintenant dans les voitures, bien sûr. Mais il y a même des chaînes où ils se sont remis à monter des compteurs de vitesse analogiques parce que sinon les voitures ne sortaient pas. Enfin, c'est assez incroyable. Donc quand on voit la numérisation, par exemple, de l'hôpital, de plein de choses, on peut le sentir un petit peu à travers la question des cyberattaques, évidemment, hein, et c'est cette idée que finalement, si on a vraiment fait tout en numérique, d'abord, pour les générations futures, ça, le boulot des historiens sera sans doute très difficile, mais même pour les générations actuelles, la question d'être capable de fonctionner parfois un peu en mode hybride, en mode dégradé, peut être intéressante, quoi. Et du coup, cette question d'un peu d'action qu'on peut mener pour essayer de réduire l'impact environnemental, c'est-à-dire de faire durer plus les objets, d'être capable de réparer même effectivement des cartes électroniques. Aujourd'hui, une carte électronique qui ne marche plus, alors pas dans un téléphone, hein, mais dans une chaudière, dans un équipement d'infrastructure, etc., en fait, on fait un échange standard de la carte, alors qu'en fait, il n'y a peut-être qu'un composant qui est abîmé sur cette carte. Et on pourrait descendre au niveau de la réparation et changer uniquement ce composant au lieu de changer toute la carte. Ça serait des économies formidables. Ça réclame des évolutions de compétences un peu économiques, avec peut-être un tissu qui peut aller du Repair Café jusqu'à des entreprises plus spécialisées et capables, un peu comme dans les logiques de maintenance aérienne, d'avoir différents niveaux de réparabilité et de maintenance, avec différents niveaux d'expertise. Eh bien ça peut permettre de gagner en résilience, parce que finalement, quand vous n'avez plus accès au neuf qui doit arriver en avion de l'autre bout de la planète, vous pouvez faire avec l'existant et vous pouvez vous débrouiller avec finalement le stock qui est disponible. C'est pas juste un sujet pour les générations futures et pour l'avenir en disant chaque microgramme de palladium, d'indium, de gadolinium ou je ne sais pas quoi que j'ai économisé aujourd'hui, c'est super, ça servira aux générations futures. À court terme, en réalité, d'imaginer de numériser nos villes, de numériser l'ensemble de toute une série de services de base, etc., en disant on va mettre des capteurs partout, des data centers, on va tout calculer. Mais à la fin, on dépend peut-être de 50 pays différents où les choses sont extraites, sont produites, où est-ce que sont stockées les données. Et on voit arriver ces questions de souveraineté, bien sûr, souveraineté numérique, on en parle beaucoup. Donc la question de la juste proportion peut-être entre du travail humain, de l'organisation, et puis le travail de la machine, le travail du logiciel. Alors, évidemment, des fois le logiciel et la machine, ils sont hyper efficaces, ils font pas grève, ils sont là tout le temps, 24 heures sur 24, ils tombent pas en panne, ils sont pas malades. Bon, ok, mais bon, sauf que des fois, juste parler à un logiciel, on peut l'expérimenter, hein, chacun un petit peu, quand on appelle un call center un petit peu automatisé, on peut vite devenir un peu chèvre. En fait, des fois, avoir un humain en face qui comprend, qui sait faire, qui peut se débrouiller, qui a des capacités d'adaptation plus grandes, ça peut être aussi intéressant. Et sans doute, la résilience, elle vient un petit peu des deux, un peu du high-tech et du low-tech finalement, un peu de la machine et un peu des organisations humaines. Et je trouve que c'est ça qu'il faut pas perdre de vue, c'est cet intérêt en fait de la juste proportion, de garder ça en tête dans les critères, dans nos choix d'organisation.
Il y a un concept que vous citez dans plusieurs de vos ouvrages et qui m'a paru très intéressant pour comprendre ce que nous traversons, mais qui du coup je me demande s'il freine pas un peu les logiques de résilience. C'est celui de shifting baselines, donc à la base côté connaissance de la biodiversité, donc. Enfin, peut-être que je vous laisserai l'expliquer pour les pêcheurs, mais la question que je me pose du coup, c'est à l'inverse. Est-ce que on n'a pas un problème similaire côté numérique où à chaque génération, on s'habitue à avoir plus et donc du coup, on n'a pas conscience de ce qu'il serait possible d'enlever. En fait, est-ce que ça ne participe pas au blocage, en gros, au recours si facile au technosolutionnisme?
Oui, c'est les deux à la fois. Alors, le shifting baseline, c'est un truc incroyable. Il faut rendre hommage à ce biologiste Daniel Pauly, qui, donc, lui, est biologiste des ressources marines, donc un spécialiste de ce monde dans lequel on demande aux scientifiques de fixer des quotas de pêche pour maintenir l'état des pêcheries. Alors on part un peu loin là par rapport au numérique, mais on va y revenir, hein, pas de souci. Il a eu une intuition, et ensuite il y a beaucoup de travaux qui ont été menés pour confirmer cette intuition, c'est que finalement, on prend comme référence l'état des stocks quand on rentre dans la carrière, quoi, quand on est un scientifique. Hein, l'état des stocks de biodiversité, du niveau d'un peu des différentes zones de pêcherie. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on vide les mers de leurs poissons, eh bien, y a des scientifiques qui rentrent dans la carrière, d'autres qui partent à la retraite, et au fur et à mesure, bah, ça fait glisser le niveau de référence vers le bas. Donc, cette idée de shifting baseline syndrome, le syndrome du décalage des points de référence. Et en fait, ce truc, bon, c'est évidemment, on peut l'élargir assez facilement à la question environnementale au sens large, hein, c'est l'idée d'amnésie environnementale, hein, c'est-à-dire que en fait il y avait des lions en Grèce, hein, je sais pas si vous lisez voilà, les 12 travaux d'Hercule, bah oui, il y avait des lions en Italie, des lions en Grèce, il y a longtemps, mais ils ont existé, bon, et puis bah, aujourd'hui ça ferait un peu bizarre. Et puis, bah, il y a de moins en moins de papillons, il y a de moins en moins d'insectes, mais finalement, bah, les enfants qui naissent aujourd'hui, bah, ils croisent moins de papillons, ils ne sont pas perturbés tous les jours de croiser moins de papillons. Celui qui pourrait, ou celle qui pourrait expliquer ses grands-pères ou grand-mères, disant, bah, moi, de mon temps, il y avait plus de papillons, mais évidemment, grand-père et grand-mère, leur parole est aujourd'hui sans doute un petit peu dévalorisée, puisqu'évidemment, il faut au contraire être jeune et dans le coup, et que c'est l'innovation qui est mieux que la transmission, ce qui est une surprise, une nouveauté, en fait, hein, dans l'histoire de l'humanité. Pendant 99% de l'histoire de l'humanité, ce qui était le plus important, c'était de transmettre le fragile capital technique et culturel qui avait été acquis par les générations précédentes. Et évidemment, depuis deux siècles, la vitesse de l'innovation technologique fait qu'au contraire, quand on vieillit, maintenant, on n'est plus dans le coup. Et donc, c'est d'un point de vue anthropologique très problématique. Donc, Shifting Baseline Syndrome, maintenant, si on l'adapte à toute la société, eh ben, c'est cette idée, justement, que finalement, l'être humain, au sens personnel, mais surtout au sens sociétal, est très adaptable, en fait. Et que y a des évolutions des valeurs, il y a des évolutions des modes de fonctionnement, des modes d'organisation, de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas, des références de ce qui est une vie bonne, de ce qui n'est pas. Voilà. Et effectivement, la vie d'aujourd'hui, elle est sans doute un peu... Il y a un peu de science-fiction par rapport à la vie des années 1960, et puis encore plus par rapport à la vie des années 1880. Et alors évidemment, effectivement, on a plutôt eu tendance, historiquement, en tout cas dans les pays occidentaux, on va dire, mais à ce que ce glissement de référence, eh bien, il aille plutôt dans une logique de plus grand confort, de plus grande consommation, de plus grande abondance. Hein, donc voilà, pensons au nombre de personnes qui aujourd'hui prennent l'avion pour aller en vacances. Il y en a plus qu'avant. Avant, c'était que voilà, dans les années 60 ou 50, c'était une ultra-élite qui pouvait se permettre de se payer un avion. Bah, aujourd'hui, il y a plus de monde, même si c'est encore très inégalitaire, bien sûr. Hein. La question de la température, du chauffage dans les maisons, dans les appartements. Hein, voilà, vous prenez n'importe quelle personne qui est née avant 1945, avait un contrat quand ils étaient petits, ben voilà, il y avait des grosses couvertures, une bouillotte et je sais pas quoi, et qui faisait froid au moins dans les chambres. Donc on a eu tendance à glisser vers plus de confort. Mais l'être humain étant incroyablement adaptable, en réalité, on peut glisser dans les deux sens. En réalité. Et on peut le voir, c'est atroce, mais dans plein d'endroits du monde aujourd'hui où c'est difficile, hein, ben finalement... alors c'est très difficile, mais bah, les gens s'adaptent, essaient de s'adapter, de vivre quand même, de faire des enfants, d'avoir des histoires d'amour, que sais-je. Donc pour moi, en fait, c'est cette idée-là qu'aujourd'hui, finalement, on projette dans toutes les planifications écologiques et de transition, en fait, on projette un peu nos fantasmes d'aujourd'hui en disant « Ah bah comment ils vont faire pour se chauffer, comment ils vont faire pour se déplacer en 2050 ou en 2060 ?» Mais finalement, peut-être qu'en 2050, eh bien la référence, ça sera de se chauffer à 16 l'hiver, et puis de porter un t-shirt de plus ou de chauffer différemment les pièces dans un logement alors qu'aujourd'hui on chauffe toutes les pièces presque de la même manière. Et puis que bah oui, on sera peut-être beaucoup plus à covoiturer, voire même à prendre des vélos, mais que ça sera l'habitude. Et puis peut-être qu'on n'ira pas au même endroit en vacances pour plein de raisons. Et qu'en fait, voilà, quand on regarde, si on se reprojette 30 ans avant et qu'on regarde un petit peu ce qu'est le profil de la société, on pourrait prendre même des exemples autour de la question des rapports de genre, du racisme, enfin voilà, ne serait-ce qu'il y a 30 ans, et quand on regarde aujourd'hui, bah, ça a quand même déjà beaucoup bougé. Donc si on projette ces mêmes possibilités de bouger dans le futur, bah, en fait, ça ouvre des marges de manœuvre assez intéressantes, et que du coup, on s'auto-censure un peu aujourd'hui, en disant non, c'est pas possible, les gens renonceront jamais à leur voiture. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pendant, encore une fois, 99% de l'histoire de l'humanité, les gens n'ont pas eu de voiture, et s'en sont très bien portés. Donc peut-être qu'on aura encore des voitures et tant mieux, et un certain nombre de voitures, des ambulances, des voitures de pompiers, pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'enfourcher un vélo, pour les personnes plus âgées, etc., il y aura encore de la mobilité, mais est-ce que ce seront des objets qui font 1,5 tonne ou 2 tonnes comme aujourd'hui? Est-ce que ce seront des objets différents? Est-ce qu'on aura une autre manière de voir les choses? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une logique de métropolisation très forte, donc les gens sont attirés par la grande ville parce que c'est aussi là qu'on y fait carrière, c'est aussi là qu'on trouve du travail, c'est aussi là qu'on peut y faire des études, etc. Bah demain, peut-être qu'on aura un revival des villes moyennes, des villages, des bourgs, etc. Et que d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a tout un patrimoine bâti qu'on utilise mal aujourd'hui. Donc, on pourrait tout à fait, quelque part, requalifier et que ça irait bien d'ailleurs avec la question de la transition dans l'agriculture qui réclamera sans doute un peu plus de monde. On revient sur la question de l'équilibre entre les machines et les personnes. Donc, en fait, voilà, en fait, c'est une de mes deux manières d'être optimiste dans un monde un peu dépressif. En tout cas, quand on s'intéresse à ces questions de limites planétaires et d'impact environnemental. Le premier, c'est le shifting baseline, effectivement. Et le deuxième, c'est le gâchis effroyable, immense, actuel du système. Qui fait qu'on a des marges de manœuvre incroyables, phénoménales, avant de se retrouver à dire « Ah là là, on va revenir à l'âge de pierre et vivre dans des grottes et je sais pas quoi à cause des décroissants ». Mais non, en fait, aujourd'hui, on jette un tiers de la nourriture à la poubelle, on balance des produits électroniques qui marchent encore à 99%, mais sauf que le logiciel qui est dessus fait qu'il rame, donc on change. Et en fait, les marges de manœuvre sont dingues. Donc d'un point de vue technique, on a plein de manières d'évoluer, quoi.
Est-ce qu'on peut explorer un peu plus cette question de comment éviter le gâchis, en tout cas dans le domaine informatique, numérique ? Parce que j'allais dire justement, peut-être que pour ce milieu, de même que pour certains politiques aiment aussi beaucoup les idées d'innovation très liées au monde du numérique, etc. L'une des idées les plus compliquées, en fait, c'est d'envisager que la low-tech, ça puisse être un espace d'innovation ou d'une forme de progrès, mais juste qui ne serait pas forcément équivalente à plus de techno, plus de ressources, plus de machin.
Low-tech dans le domaine des télécoms et dans le domaine du numérique, c'est évidemment compliqué et choquant à la fois, parce qu'effectivement, on peut imaginer des maisons low-tech, des bâtiments low-tech avec, je sais pas quoi, de la ventilation naturelle, des matériaux biosourcés, etc. Et dès qu'on touche à des domaines un peu high-tech, bon, personne n'a envie de monter dans un avion low-tech, personne n'a envie de se faire soigner dans un hôpital low-tech, et personne n'a envie d'avoir peut-être un téléphone low-tech, j'en sais rien. Parce que, je sais pas, il va juste... qu'est-ce que ça veut dire low-tech ? Est-ce que c'est l'appareil photo qui est moins bien ? Je sais rien. Alors, en fait, moi, low-tech, j'aime pas trop la logique, je dirais, de labellisation ou de critères qui est très difficile, en fait, à manier, parce que finalement, la question d'utilité, la question d'accessibilité, bah, en fait, c'est toujours très, très discutable, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que certains vont trouver très utiles et d'autres vont trouver inutiles. Enfin, le jet privé, pour les milliardaires, c'est très utile, hein. Mais après, au niveau sociétal, c'est moins utile. Donc, qui juge, en fait, de l'utilité du truc, quoi. Alors, moi, j'aime mieux parler de démarche low-tech. L'idée, c'est effectivement de dire comment est-ce qu'on peut soulager, réduire l'impact environnemental à travers une approche différente qui peut être une approche de sobriété à la source. Donc de sobriété systémique, comment est-ce qu'on s'organise pour avoir une mobilité différente, comment est-ce qu'on fait des plus petits véhicules, des choses comme ça. Une question de durabilité des objets, et puis une question de prise en compte aussi de la fin de vie, du démantèlement, et qui ouvre plein de pistes hein, aussi sur des questions par exemple de refabrication. Alors, non, c'est un mot un peu nouveau, en anglais on dit « remanufacturing ». Il y a toujours un peu le même exemple qui traîne depuis 10 ans, c'est les photocopieurs, où il y a des pièces anciennes de photocopieurs qui servent à refaire des nouveaux photocopieurs. Encore une fois, il y a des pièces d'usure et des pièces qui ne s'usent pas dans tous nos objets, et qu'en fait, on pourrait vraiment être dans une logique de, très différente de l'approche, au lieu de construire que du neuf et de garantir, avec une période de garantie, ces objets, ben en fait, on pourrait tout à fait réincorporer des composants existants et finalement passer notre temps à jouer au Lego, et le numérique qui marcherait très bien pour ça. Donc low-tech dans le numérique, c'est plein de choses à la fois. Il y a une bonne nouvelle d'abord, c'est que le numérique est un secteur dans lequel il y a une marge de manœuvre énorme, encore une fois. Hein. C'est-à-dire que si on empilait l'ensemble des leviers possibles, je pense qu'on pourrait réduire d'un facteur 100, sans aucune difficulté technique, sans aucun problème par rapport à aujourd'hui. Ce qui est dingue, hein, parce qu'on n'a pas ça dans la mobilité, on n'a pas ça dans le logement. Là, c'est vraiment un secteur qui, en fait, a tellement été fulgurant qu'il y a vraiment des marges de manœuvre. Hélas, aujourd'hui, ce progrès technique, il est absorbé, il est annihilé par l'effet rebond. C'est une idée qu'on a des objets toujours plus efficaces. On est capable de transporter, de stocker, de s'échanger les octets, hein, les unités d'information qui consomment de moins en moins de ressources et d'énergie. On a des data centers qui sont plus efficaces, on a des objets qui sont plus efficaces, on a des réseaux qui sont plus efficaces. Mais sauf que, comme on produit de plus en plus d'octets et qu'on calcule et qu'on stocke de plus en plus d'octets, intelligence artificielle, mais aussi pensons juste au... Bah, par exemple au format des photos, ou regardez la taille de votre disque dur et comment vous le remplissez aujourd'hui. Aujourd'hui, on le remplit en centaines de gigaoctets ou en téraoctets. Et puis, bah, si on remontait 10 ans avant, hein, shifting baseline, on était content avec notre truc en dizaines de mégaoctets et puis on se rendait pas compte. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des photos qui ont 20, 30, 40 mégaoctets maintenant de taille ? Voilà, on n'est pas en train de projeter nos photos sur des écrans 4 mètres par 3 mètres. Donc, aujourd'hui, on a l'ensemble des objets numériques ont dépassé la capacité de l'œil et du cerveau humain en nombre de couleurs, en nombre de pixels par centimètre carré, et puis pour les films, en nombre d'images par seconde. Donc ça ne sert à rien. C'est juste un argument marketing. C'est quand même dingo. Donc, si on empilait tous les leviers, on pourrait vraiment réduire très fortement. Ces leviers, ils consistent en quoi ? D'abord, la question de la fabrication. Il y a l'impact environnemental du numérique qui démarre d'abord sur la question de la fabrication des objets, même d'un point de vue de l'énergie. Hein. C'est très énergivore de fabriquer des puces, c'est très énergivore de fabriquer des composants électroniques, c'est très énergivore de déplacer logistiquement tous ces composants électroniques pour venir s'intégrer finalement dans un seul objet. Dans un smartphone, 80% du coût environnemental, même énergétique seul, sans même parler des matériaux, c'est vraiment au moment de la fabrication. Quoi. Et puis après, bon, enfin, plus ou moins, ça peut être un peu variable selon qu'on le recharge en France ou en Pologne, ou qu'on le recharge à 18h ou à 23h, mais voilà, c'est vraiment la fabrication. Donc ça veut dire quoi ? C'est avoir moins d'objets et les faire durer plus longtemps. Il y avait ce fantasme de dire « mais oui, mais le smartphone, ça a remplacé le radio-réveil, la boussole, la montre, le cheval. » Mais non, mais quand on regarde, on a toujours plus d'écrans partout, y compris dans les magasins, y compris dans les pubs, y compris dans plein de choses. Donc, réduire la quantité d'objets, les faire durer, parce qu'ils ont des capacités à durer en réalité. Bien sûr, il y en a qui vont tomber par terre, qui vont se casser, etc. Mais voilà, alors ça ouvre évidemment des questions phénoménales d'un point de vue marketing, d'un point de vue modèle économique, hein, mais d'un point de vue technique, en tout cas, il n'y a juste pas de souci. Donc ça, c'est la partie terminaux. Ensuite, il y a la partie réseau. Donc là, les réseaux, bah, la question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on déroule des câbles transocéaniques, on rajoute des réseaux, etc., on empile des réseaux complémentaires parce que, encore une fois, on échange de plus en plus de données. Donc la question, encore une fois, de la data, pourquoi on produit toutes ces données, qu'est-ce qu'on a besoin d'en faire, pourquoi on les stocke. L'exemple de sobriété absolue, c'est Wikipédia, hein, qui a démarré. Maintenant, ils ont beaucoup d'argent, mais à l'époque, ils n'en avaient pas beaucoup. Donc voilà, il n'y avait que des photos basse résolution. Il n'y a toujours d'ailleurs que des photos basse résolution. Voilà, ça ouvre des questions de ce type-là. Et puis la question des data centers. Alors les data centers, bah, c'est effectivement d'abord aujourd'hui cet incroyable effet intelligence artificielle qui est fou. C'est juste les déchets numériques dans 5 ans ou dans 10 ans. On est au taquet maintenant, je pense, de la conception de ces data centers. Mais en fait, le problème maintenant, c'est juste voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de calculer, qu'est-ce qu'on a besoin de stocker, qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec toutes ces données. Et puis, bah, ça ouvre du coup des questions d'éco-conception numérique, qui n'est pas juste l'éco-conception des objets, mais l'éco-conception des logiciels, l'éco-conception des pages web, l'éco-conception des services. On sait que finalement, eh bien, une page web à télécharger, ça peut être plusieurs dizaines de mégaoctets ou ça peut être quelques centaines de kilooctets. Donc il y a plein de choses qui peuvent être optimisées, qui peuvent être mutualisées, qui peuvent être réfléchies différemment. Et on prend un exemple dans la bande dessinée, bah, justement des réseaux où on peut être... finalement, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir des réseaux différents. Mais finalement, c'est une absurdité d'un point de vue environnemental, d'un point de vue des ressources, d'un point de vue de l'énergie, d'avoir des réseaux parallèles qui permettent à chaque opérateur de récupérer les données et d'assurer le service pour tous leurs clients. Alors qu'en réalité, pour aller d'un endroit à un autre, vous n'avez qu'une seule route, vous n'avez qu'une seule ligne de train, vous n'avez qu'un seul réseau d'eau, vous n'avez qu'un seul câble électrique qui arrive chez vous. Donc en fait, cette idée d'avoir eu plusieurs réseaux parallèles, ça a été permis par l'incroyable progrès technologique, et on pourrait dire la loi de Moore un peu dans le numérique, avec cette idée que finalement les objets sont de moins en moins chers et de plus en plus puissants. Mais en réalité, si on devait le réfléchir aujourd'hui, on ferait un unique réseau mutualisé sur lequel monteraient différents opérateurs. Et ça permet aussi de faire plein d'économies. Donc tous ces leviers-là voilà, sont des leviers qui ont des composantes techniques et technologiques. Donc c'est des logiques d'innovation aussi, une logique d'innovation sociale, sociétale, d'usage. Et finalement, de quel niveau de qualité on a besoin pour les photos, est-ce qu'on a besoin de vidéos partout, la question du temps réel des réseaux sociaux, qui est aussi quelque chose qui est extrêmement consommateur, en fait, hein, parce que tout ça est backupé dans plein d'endroits différents, ça traverse des câbles transocéaniques en permanence, la question des formats des vidéos, la question des téléchargements automatiques sur des plateformes vidéo qui vont du coup anticiper des besoins de mégaoctets supplémentaires. Enfin, il y a plein d'endroits en fait aujourd'hui où le gâchis est phénoménal. Quoi.
Et si le gâchis est phénoménal, Philippe Biwix nous l'a clairement expliqué, alors les marges de progression sont immenses. Je vous encourage vivement à lire ses livres ou sa bande dessinée, ça donne de bonnes perspectives si jamais vous ne savez pas par où commencer. Côté matériel, nous, on reviendra sur ces questions lorsqu'on arrivera au bout de la chaîne d'utilisation du numérique, du côté du recyclage. Mais avant cela, dans les prochains épisodes, on va se pencher sur l'autre nerf de la guerre, celui que le boom de l'intelligence artificielle a étrangement plutôt mis en avant. C'est la question de l'infrastructure derrière nos outils technologiques et de ses impacts sociaux et environnementaux, et puis celui de l'énergie qui permet de faire tourner toutes ces technos. D'ici là, si cet épisode d'Écosystème vous a plu, faites-le savoir autour de vous, mettez-nous des étoiles, laissez-nous des commentaires, partagez-le. Comme vous le savez, tout cela nous aide toujours à toucher de nouvelles personnes. Et si vous avez des idées, des pistes que vous voulez nous partager, n'hésitez surtout pas, on vous lit toujours avec grande attention. L'Écosystème est un podcast écrit et tourné par moi, Mathilde Saliou. Il a été réalisé par Clarisse Horn et produit par Next. Pour nous retrouver, direction Blue Sky, LinkedIn, Mastodon, ou bien Next évidemment. À très vite !